télé, radio et digital. Good Morning Business.
Comment accompagner la transition écologique des PME et des ETI? À partir de 2024, les entreprises de plus de 250 salariés, dont le chiffre d'affaires dépasse les 40 millions d'euros, devront communiquer sur leur politique environnementale, sociale et de gouvernance. Actuellement, seules les entreprises de plus de 500 salariés sont concernées par cette obligation. On va en parler avec Stéphanie Frachet, directrice associée de CAPSA. Bonjour.
Bonjour.
Fonds européen spécialisé dans le private equity. On va parler dans un instant de la manière d'accompagner ces PME et ses ETI. D'abord, un commentaire sur l'évolution de la réglementation. La directive européenne CSRD élargit donc cette obligation de reporting extra-financier. Pensez que ça va dans le bon sens?
Oui, ça va dans le bon sens. La transition est en marche, donc je pense qu'il est essentiel d'embarquer le tissu des PME et des ETI. Aujourd'hui, on a bien vu que les grandes entreprises françaises cotées se sont structurées en la matière, mais les PME et les ETI ont encore un gros effort à faire.
Est-ce que les PME en particulier sont prêtes pour cette nouvelle réglementation?
Non, très peu. La réalité. On estime aujourd'hui que moins d'une entreprise sur deux de taille PME en France est capable de calculer son empreinte carbone. Donc on sait bien que l'ampleur de l'effort à faire est massif et c'est pour ça que nous on a cette volonté de créer ce fonds qui va les accompagner.
1,3 milliard d'euros pour ce nouveau fonds dédié à l'accompagnement des PME et des ETI européennes dans leur démarche de décarbonation. Comment est-ce que ça va fonctionner?
Alors concrètement, on va être une force de proposition aux côtés de ces PME et de ces ETI pour les aider à mettre en place une feuille de route. La plupart de ces entreprises ont la conscience des enjeux qui sont devant elles, mais elles n'ont pas la capacité, les moyens financiers, humains, de définir une feuille de route. Donc on va les aider là-dedans. Ensuite, on va les accompagner, c'est ça qui est important aussi, et on va s'engager avec elles dans la mise en place de cette feuille de route. On va aligner les intérêts, les nôtres, celui du fonds d'investissement et celui de l'entreprise, dans la mise en place de cette feuille de route, en liant la rémunération du fonds d'investissement et des dirigeants dans la mise en place de cette feuille de route. Et puis on va, surtout très important, mettre à disposition de l'entreprise les moyens humains et financiers qu'elles n'ont pas parce qu'elles sont très peu outillées en la matière.
Ouais, donc ça dépasse vraiment largement le cadre du simple investissement.
Absolument, absolument. On est un fonds d'investissement, donc on accompagne les entreprises dans leurs projets de croissance, mais avec ce fonds, on concilie accompagnement de la croissance et accompagnement des enjeux ESG au sens large et décarbonation.
Quelles sont les entreprises que vous allez accompagner? Quels sont vos critères de sélection? Est-ce qu'il y a par exemple des secteurs sur lesquels vous ne vous engagez pas?
On va accompagner, enfin, on a une démarche généraliste, c'est-à-dire que c'est vraiment l'idée d'aller accompagner toutes les entreprises possibles. Je pense qu'on va être bien sûr sensible aux entreprises qui ont une sensibilité déjà en la matière. Je vous prends un exemple, le premier investissement de ce fonds, c'est une entreprise qui s'appelle WeFirst, qui propose des solutions Wi-Fi pour les professionnels. C'est une entreprise qui a déjà mis en place un certain nombre de mesures puisqu'elle propose depuis 2016 des solutions Wi-Fi basse consommation pour les professionnels. Mais avec cette entreprise, on est allé un cran plus loin. On l'a accompagnée dans la mise en place d'objectifs futurs de décarbonation.
C'est toujours un débat chez les investisseurs. Est-ce qu'on accompagne les entreprises qui ont déjà fait des premiers pas en matière de décarbonation ou est-ce qu'on accompagne celles qui n'ont pas forcément un très bon track record mais avec l'espoir, l'objectif de les faire changer?
Ouais, je pense que c'est très important. On se positionne dans une démarche de progrès, c'est-à-dire qu'on ne va pas sanctionner les entreprises qui sont aujourd'hui à un bilan, on va dire, faible. L'enjeu, c'est plutôt d'enclencher la dynamique, d'accompagner cette transition. Notre rôle, c'est vraiment la mission d'accompagnement et donc c'est ça qu'on veut soutenir absolument.
Comment est-ce qu'on arbitre entre les impératifs de croissance d'un côté et de décarbonation de l'autre? Où est-ce qu'on place le curseur? C'est toujours un peu difficile.
On a tendance à opposer les enjeux financiers et les investissements qui sont nécessaires d'ailleurs pour cette transition.
C'est une erreur?
C'est une erreur, je pense que c'est une erreur parce qu'en fait on est maintenant très conscient du fait que les entreprises qui ont mis en place des politiques de développement durable sont des entreprises qui sont beaucoup plus attractives et performantes. Elles sont plus performantes et plus compétitives vis-à-vis de leurs clients, les grandes entreprises cotées pour beaucoup d'entre elles qui préfèrent choisir des fournisseurs PME, ETI qui s'inscrivent dans cette logique de développement durable. Elles sont plus attractives pour leur surtout leurs salariés qui préfèrent maintenant travailler, je pense, dans des entreprises qui s'inscrivent dans la durée et qui les retiendront davantage en ayant cette politique de développement durable.
À chaque vague de chaleur, on prend conscience de l'urgence climatique. On l'a vu encore ces derniers jours en France. Et pourtant, les pouvoirs publics dans différents pays européens autorisent l'utilisation de davantage de charbon pour répondre à l'urgence sur le plan énergétique. Est-ce que vous redoutez qu'on fasse un pas en arrière en raison de la crise actuelle en Ukraine?
Je ne pense pas. Je pense qu'il y a une telle conscience aujourd'hui des enjeux que chaque entreprise à son niveau va arriver à se mobiliser et on va les accompagner pour ça.
Les conditions de financement sont en train de changer. Remontée des taux, moins de liquidités. Qu'est-ce que ça change pour un fonds comme CAPSA? Est-ce que ça vous rend plus utile?
Oui, ça nous rend plus utiles parce que je pense que c'est des périodes pendant lesquelles les entreprises ont encore plus besoin d'être soutenues. C'est des périodes dans lesquelles, évidemment, elles sont chamboulées compte tenu des contraintes qui pèsent sur elles. Et en même temps, c'est des phases dans lesquelles elles peuvent accélérer. Et nous, on peut leur apporter les financements pour accélérer et profiter finalement de périodes pour consolider aussi leur marché.
C'est-à-dire que vous leur apportez du financement là où elles ne seraient peut-être pas capables seules de trouver ces financements aujourd'hui.
Absolument, absolument. Le marché du crédit peut se contracter et notre capacité d'apporter en capital des moyens financiers pour accélérer la croissance, c'est évidemment très important pour ces entreprises.
On a parlé de votre nouveau fonds, 1,3 milliard d'euros. Est-ce qu'on peut parler de CAPSA plus généralement ?
Oui, absolument. CAPSA, c'est un acteur majeur désormais de l'investissement en France et en Europe, spécialisé dans le financement des PME et des ETI en dette et en capital. C'est aujourd'hui une centaine de personnes, 7 milliards d'actifs sous gestion. Et concrètement, on a accompagné depuis la création un peu plus de 250 entreprises en France et en Europe.
Merci beaucoup Stéphanie Frachet, directrice associée chez CAPSA. Félicitations pour votre engagement. On était ravis de vous accueillir ce matin.
Merci beaucoup.